Mais ça me faisait plaisir d'entendre cela, et les chants ont dit beaucoup de ce que je voudrais partager avec vous. J'aurais pu me présenter devant vous avec un, en levant mon pull et avoir écrit sur ma chemise « Je suis humble ». Mais vous comprendriez bien que c'est un mensonge, ne serait-ce que de l'avoir écrit. Et je voudrais vous parler de l'humilité, mais pas de l'humilité parce que je serais incapable de vous parler de l'humilité, parce que ce serait même un peu d'orgueil que vous dire comment être humble. Mais je vais vous dire, je vais essayer de vous parler, de vous encourager à vous poser la question, pourquoi ? À quoi ça sert ? Ce matin, en me levant pour rédiger, j'avais un autre message en tête et je me suis installé à mon bureau et on dit, hein, j'étais sec, il n'y avait rien qui... Et là, je me suis dit, je suis resté comme ça une heure à mon bureau à regarder des textes et puis sur ce que je voulais partager initialement. Et finalement, j'ai commencé à prier et puis je suis tombé sur ce texte de 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 26 à 31. Je vous invite à prendre le texte. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. Afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui par la volonté de Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Paul écrit cette lettre avec une idée en tête. C'est l'unité de l'Église. Dans la communion à Jésus-Christ. Et les versets 8 et 9 du même chapitre le disent, c'est « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur Jésus-Christ. » C'est le but de sa lettre. « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, lui qui vous a appelé. » C'est le Seigneur qui nous appelle. On en a parlé ce matin aussi. Cette église de Corinthe est divisée par toutes sortes de querelles doctrinales qui trouvaient leur origine, comme toujours, dans des rivalités issues d'esprits orgueilleux. Et on croirait, en lisant cela, entendre la parole du pharisien et du publicain que Jésus raconte, où vous avez dans le temple ce pharisien qui prie le Seigneur, et je l'imagine debout, les mains levées, et qui regarde ce publicain et qui dit « Merci Seigneur que je ne sois pas comme ce publicain qui est là, étendu par terre, qui se frappe la poitrine en disant « Pardon Seigneur, pardon de ce que je suis. » C'est le monde à l'envers. Ceux qui, humainement, sont des gens bien, comme on dit, des sages aux yeux du monde, en fait, ne recueillent aucune considération de la part de l'apôtre Paul. Cela ne veut pas dire que Paul méprise la sagesse. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, le roi Salomon était considéré comme un des hommes les plus sages qu'il y ait eu sur cette terre. Pourquoi ? Parce qu'il a demandé la sagesse à Dieu au lieu de tout l'or du monde qu'on lui proposait, au lieu des richesses qu'il a eues en plus de cette sagesse. La sagesse, c'est une vertu qui est mise en avant, bien sûr, dans les Écritures. Et en Ésaïe, quand il nous parle du Messie, et nous dit que sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement. Bien sûr, la sagesse, c'est quelque chose d'important. Seulement, les hommes de la Bible ont un langage bien particulier sur la sagesse. Quand ils parlent de la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Il y a deux choses. Premièrement, il ne faut pas se tromper de sagesse. Et puis, il faut aussi inverser nos regards. La sagesse de Dieu, c'est exactement l'inverse de celle des hommes. Et on va s'expliquer là-dessus. Deuxièmement, Dieu est le seul qui puisse la donner. Alors, il y a sagesse et sagesse, et ici, Paul emploie le même mot, hein, c'est Sophia, en grec, hein, pour parler de la sagesse, mais il distingue la Sophia, sagesse du monde, et la Sophia, sagesse de Dieu. Ce qui semble raisonnable aux yeux des hommes est bien loin du projet de Dieu, et inversement, ce qui est sage aux yeux de Dieu paraît déraisonnable aux hommes. Et si on y réfléchit, c'est normal, parce que notre sagesse, la sagesse des hommes, est une logique de raisonnement. Alors que la sagesse de Dieu, c'est une logique de l'amour. Et on sait bien que l'amour échappe à tout raisonnement. Et Descartes disait que le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Hein, vous connaissez cette phrase. La folie de l'amour de Dieu, comme le dit Paul, est complètement inaccessible au raisonnement humain. C'est inaccessible à notre étroitesse d'esprit. On essaie de comprendre la grâce et on a du mal à l'assimiler. Et c'est normal si on essaie de l'assimiler par le raisonnement. Elle se reçoit avant tout. C'est pour cela que la vie et la mort du Christ sont étonnantes pour nous, elles sont scandaleuses pour certains, et elles sont folies pour le monde. Et une fois de plus, on retrouve cette parole d'Ésaïe, « Vos pensées ne sont pas mes pensées, dit le Seigneur, mes chemins ne sont pas vos chemins. » Et l'abîme qui sépare nos pensées de celles de Dieu est telle que Jésus pourra aller jusqu'à traiter Pierre de Satan. Vous vous souvenez quand Jésus annonce qu'il doit mourir, qu'il va être tué, et Pierre lui dit « Non, non, pas toi Seigneur, non, je m'opposerai à cette mort. » Et Jésus lui dit « Arrière Satan, tes vues ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » La distance qui nous sépare de Dieu, c'est un thème très fort dans la Bible. Et on parlait du Dieu proche, oui, mais ce Dieu proche est aussi le tout autre. Et avec lui, on dirait que notre système de valeurs, il est complètement inversé. Ce que nous appelons richesse, sagesse et force dans notre monde, il est rien aux yeux de Dieu. Et la Bible va encore plus loin. Non seulement Dieu ne se conforme pas à notre hiérarchie de valeurs, mais on a bien l'impression qu'il nous met en opposition à nos hiérarchies de valeurs. Ce qui est petit devient grand, et ce qui est grand devient petit. Pensez au roi David, qui était le dernier de 8 garçons. Et quand le prophète vient dans cette famille que Dieu lui a désignée pour choisir le futur roi, et il dit au père, montre-moi tes fils, et il lui montre du plus grand au plus petit, et au bout du septième, il lui dit, mais il n'y en a pas d'autres, parce qu'il n'y en a aucun qui corresponde. Ah oui, il y a bien un huitième. Mais quel père oublierait son fils ? Il faut bien comprendre que David était probablement un insignifiant chez lui. Et quand il dit « j'ai été conçu dans le péché », il y a peut-être quelque chose de cela dans la vie du roi David. Mais c'est lui que Dieu a choisi pour roi. Longtemps auparavant, déjà Moïse précisait bien au peuple en Deutéronome 7:7 « Si le Seigneur s'est attaché à vous, il parle au peuple d'Israël. S'il vous a choisi, ce n'est pas que vous soyez le plus nombreux de tous les peuples, car vous êtes le moindre de tous les peuples. » peut se dire, ouais, c'est le moindre, mais c'est des gens intelligents, bien. Et plus loin, il dit, ce n'est pas parce que vous êtes juste que vous avez le cœur droit. Traduisez le choix de Dieu, les choix de Dieu sont libres et sans aucun mérite de la part de l'homme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Deuxièmement, la vraie sagesse qui est celle de Dieu ne peut être qu'un don. Don de Dieu. Dieu, c'est le tout autre. Et on peut essayer de faire des anthropomorphismes en pensant à Dieu. Oui, c'est vrai qu'on a été créé à son image. Mais il est quand même le créateur du monde. Il n'a pas de corps. Il est là depuis toujours. Et il sera là jusqu'à la fin. Le temps n'existe pas pour le créateur du monde. Comment on peut imaginer se comparer à Dieu? Non, c'est pas possible. Comment on peut dire, ouais, mais vraiment, ce qu'il a fait là, c'est vraiment nul, hein. Ça va pas du tout, du tout, du tout, du tout, ta création. Pas du tout, du tout. Comment on peut s'approcher de lui avec cet esprit-là? Et pourtant, il se laisse approcher même comme cela. Tout ce qu'on peut savoir de lui, tout ce qu'on peut savoir de Dieu ou dire de lui, c'est pas des choses qu'on a conçues par notre intelligence, mais c'est des choses qu'on a reçues, qui nous ont été données par sa parole. Je pourrais vous mettre devant. J'ai essayé de faire quelque chose de bien, mais je me rends compte que c'est rien, quoi. C'est rien. J'étais en train de faire cette présentation et je me dis, mais ce que tu es en train de faire, c'est rien. Tu es en train de parler de choses que tu connais à peine. C'est vrai. Et j'espère que Dieu vous les révélera par son Saint-Esprit dans vos cœurs. Dans les débuts de la lettre aux Corinthiens, Paul leur avait dit « Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été donnée dans le Christ Jésus, car vous avez été en lui comblés de toutes les richesses, toutes celles de la parole, toutes celles de la connaissance, c'est que le témoignage de Christ s'est affermi en vous, si bien qu'il vous manque aucun don. » Voilà une église qui a tout reçu des dons de Dieu. Mais rien de ce qu'ils ont acquis par un travail sur eux-mêmes. Non, c'est quelque chose qu'ils ont reçu. Ça n'en fait pas une église vertueuse. Et si vous lisez Corinthiens, ce n'est pas une église vertueuse. C'est une église qui est appelée à devenir vertueuse par l'apôtre Paul, mais elle n'est pas vertueuse. Pourtant, ils ont tout reçu. Et du coup, évidemment, on voit bien que pour Paul, cette connaissance de Dieu qui nous a été donné par grâce, ne doit pas être une occasion pour se vanter. Ce serait contraire à la sagesse de Dieu. De dire, dans notre assemblée, on a quand même une bonne connaissance des Écritures. On connaît bien la Bible, nous. Bon, je le dis parce que je l'ai déjà dit moi-même, et je l'ai entendu assez souvent. Non. Non, c'est pas un sujet avec lequel on peut se glorifier. Non, certainement pas. Pas de cette connaissance-là. Et on se compare souvent aux autres par l'obéissance et non par une obéissance à des règles morales. Et d'ailleurs, dans l'esprit de la plupart de nos contemporains, le christianisme est avant tout une religion morale. L'aspect spirituel est complètement oublié. Et c'est d'ailleurs caractéristique de voir la mise en question de la vérité du christianisme, de la vérité chrétienne, par la conduite des chrétiens qu'on juge sur un plan moral. Ouais, ils sont chrétiens, mais regarde-les comment ils se comportent. Et c'est vrai que les enquêtes sociologiques portant sur le comportement sexuel des chrétiens ou de leurs mœurs familiales montrent en effet que les chrétiens ne sont pas mieux moralement que n'importe qui. Dans les familles, il y a aussi des divorces dans les familles chrétiennes. Mais c'est comme ça. C'est difficile. C'était le cas dans l'église de Corinthe, que Paul appelle pourtant ses frères. La morale qui est rejetée aujourd'hui, c'est, dit-on, la morale chrétienne. Et il faut bien reconnaître, dit le sociologue Jacques Ellul, que les chrétiens ont fait tout ce qu'il fallait pour que cette confusion ait lieu. Hein, la révélation de Dieu n'a rien à voir avec la morale, absolument rien. Ni dans la Torah, Ancien Testament, ni dans les évangiles, ni dans les épîtres de l'apôtre Paul, c'est de la morale dont il s'agit. Non, non, c'est de la grâce dont il s'agit et de l'amour de Dieu. Et quand je regarde ma propre existence et que je la compare à d'autres personnes chrétiennes, non chrétiennes, je le dis souvent, je me demande en quoi mon existence est différente. Je me dis que ma vie en tant que chrétien, en tant que comme renouvelé, devrait être quand même différente. Ça, on devrait voir une sacrée différence. Alors moi, personnellement, je suis né dans cette assemblée. J'ai grandi en entendant Jésus-Christ parler de lui. Il a toujours été à côté de moi et un jour, je l'ai accepté dans ma vie. Je l'ai accepté pour qu'il rentre dans mon cœur. Pour d'autres qui ont eu des vies, certains, j'entends des témoignages, des vies moralement difficiles, et il y a eu un grand changement dans leur conversion. Ça n'a pas été le cas dans ma vie. Mais je vous invite à penser à une personne de votre entourage qui n'est pas chrétienne, mais que vous estimez pour sa vie saine, et vous la comparez à la vôtre. Elle est maigre. Et je dis souvent, elle est maigre, la différence de vie. Qu'est-ce qui différencie ma vie de chrétien à celle d'un non-chrétien dans la vie de tous les jours? Quand je conduis ma voiture, et je crois qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus polis que moi lorsqu'ils conduisent leur voiture, ou quand il fait ses courses dans une grande surface, quand il conduit ses enfants à l'école, quand il s'amuse, quand il regarde la télé, quand il mange, quand il travaille. Qu'est-ce qui fait la différence? Alors certains pourront dire, ben oui, mais c'est la foi, c'est le fait de croire. Et du point de vue intellectuel, la différence, et je parle du point de vue intellectuel, elle est maigre entre celui qui croit et qui doute la plupart du temps et celui qui ne croit pas mais qui s'interroge sans cesse. Hein? Finalement, ils sont tous les deux en recherche et croire ou croire que l'on croit, ça fait que simplifier le problème qui est de savoir pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien. En fait, on a plus de chances à résoudre le problème dans sa foi quand on ne croit pas et que l'on cherche plutôt que quand on croit et qu'on doute tout le temps. La foi, ça consiste pas simplement à croire que Dieu existe, et ça on le dit souvent. Et les contemporains de Jésus, ils avaient peu de doutes à cet égard. Les Juifs, ils ont été élevés dans la foi, ils sont grandis dans la foi, comme moi, j'ai grandi dans la foi. Quand on m'en parle, Dieu, c'est pas une option. Il a toujours été là. Il a toujours été là, et je peux pas m'imaginer d'un monde sans Dieu. Et j'ai jamais pu imaginer un monde sans Dieu. Mais Jésus reproche aux Juifs leur manque de foi, ce qui n'aurait pas dû à faire, parce que c'était des gens de foi, des gens qui croyaient en l'existence de Dieu, qui reconnaissaient l'existence de Dieu, et il leur reproche leur manque de foi, et quand ils voyaient la foi chez quelqu'un, ils s'en étonnaient. Hein? Et souvent les exemples qui sont donnés dans les évangiles, c'était des païens, le centurion, hein, qui dit... qui vient demander pour sauver son serviteur et il dit non, on n'entre pas chez moi, dis seulement une parole et il sera sauvé. Et Jésus dit, mais c'est voilà un homme de foi. Les dons de Dieu ne sont pas une cause d'orgueil personnel, mais c'est une action de grâce. Et donc la foi que nous recevons de Dieu, elle est une action de grâce de Dieu. C'est pas quelque chose qui nous permette de nous enorgueillir. Si les vues de Dieu sont différentes des nôtres, lui seul peut nous les faire pénétrer. Jérémie disait que le sage ne se vante pas de sa sagesse, que l'homme fort ne se vante pas de sa force, que le riche ne se vante pas de sa richesse. Si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ceci, d'avoir assez d'intelligence pour me connaître, moi le Seigneur, qui met en œuvre la bonté fidèle, le droit et la justice sur la terre. Et le texte d'aujourd'hui apparaît bien comme une application à la communauté de Corinthe
de ces choix surprenants de Dieu. Il choisit pas des intelligents. Il choisit pas des nobles. Il choisit pas des puissants. Mais il choisit des gens humbles. Alors, pour vous donner un exemple, tout à l'heure, le texte pendant la Sainte-Cène nous a été lu par Matthias. Alors, maintenant, on a l'habitude d'entendre Matthias nous citer ce texte. Mais ça fait quand même une grande différence de l'entendre dans la bouche de Matthias que de l'entendre dans la bouche de quelqu'un qui a l'habitude de parler à l'Église. Parce que Matthias a un handicap. On sait que intellectuellement, il est limité. Et tout à coup, l'entendre prononcer ses paroles, ben, ces paroles ont du sens. Et voilà notre rôle d'Église. Et ce rôle d'Église, ce ne sera pas dans la puissance qu'on l'aura, dans la puissance de notre témoignage, dans la puissance de notre doctrine, dans la puissance de notre façon de parler, dans notre enseignement. Non. Ce sera dans notre humilité. Parce que la seule manière, alors vous me direz, non, c'est dans l'amour. Oui, c'est vrai. L'humilité n'est pas le but en soi. Le but en soi, c'est de manifester l'amour de Dieu. Et c'est ça le but de l'Église, manifester l'amour de Dieu. Mais on ne peut recevoir cet amour que dans l'humilité. On ne peut pas le recevoir avec des raisonnements intellectuels. On ne peut pas le recevoir à coups de versets bibliques, à coups de doctrine. On ne peut pas le recevoir à coups d'assister ou de ne pas assister. Non, on reçoit cet amour par humilité. Et c'est ça l'importance de l'enseignement de Paul quand il nous parle de l'humilité, quand il parle à l'Église de Corinthe, de chercher cette humilité. Humainement parlant, rien ne désignait les Corinthiens pour recevoir un appel de Dieu. Ils ne sont ni savants, ni puissants, ni nobles aux yeux du monde, mais un ramassis de tout venant. Et vous savez que dans cette église, c'était vraiment un peu le chantier, quoi. Il y avait même un homme qui vivait avec la femme de son père. C'était des drôles d'histoires, quoi, dans cette église. Au repas du Seigneur, après, ils mangeaient ensemble et certains s'enivraient. Et puis, il y avait aussi, ils ramenaient à manger. Il y en avait certains qui avaient plein à manger, puis d'autres qui n'avaient rien à manger dans cette église. Et on partageait pas. Alors, on appelait ça des agapes, mais on partageait pas. Ben non, ben c'est chacun son truc, hein. Voilà. Mais pourtant, c'est une église. Surtout, c'est une église du Seigneur. C'est une église que Paul appelle frère. Cette église-là. Leur titre de noblesse, le seul important aux yeux de Dieu, c'était leur baptême. Et je rappelle que le baptême est d'abord une mort. Mort à soi-même. Avant d'être une résurrection avec Jésus-Christ. Et décidément, Dieu crée le monde nouveau de toutes pièces. Il n'y a pas de place pour la sagesse et l'intelligence humaine. Alors, quand je dis ça, je suis médecin. Et il y a eu des progrès énormes dans la médecine. Et c'est extraordinaire tout ce qu'on peut faire avec les études, avec les médicaments qui ont été fabriqués, avec la connaissance. Je ne suis pas en train de jeter la connaissance. Mais ce n'est pas celle-là qu'il faut mettre en avant. Ce n'est pas celle-là qui va nous aider à nous approcher de Dieu. Mais c'est l'humilité. L'Église, c'est l'illustration vivante de l'initiative inouïe de Dieu qui recrée le monde selon ses propres chemins. Il va bousculer les données habituelles de la société humaine. Il n'est plus question de se glorifier devant Dieu, comme le faisait le pharisien de la parabole, mais de rendre gloire à Dieu pour tant d'amour pour les hommes. Le but de tout cela, ce n'est pas ma gloire, ou même la gloire de celle de l'Église, mais c'est la gloire de Dieu et de son extraordinaire œuvre d'amour à travers la personne de Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste l'avait bien compris. Je termine juste avec ce témoignage. Jean-Baptiste, Jean-Baptiste, qui va s'effacer devant Jésus, celui qui vient après lui et qu'il avait pour mission de manifester au peuple. Non, je ne suis pas le Christ, je ne suis pas le prophète, disait-il. Et pourtant, Jean était le plus grand des prophètes, selon Jean. Jean l'apôtre. Je ne suis pas Élie, dont on a dit qu'il viendrait au devant du Messie. Je suis seulement, disait-il, une voix. Et plus tard, il dira, celui qui a l'épouse et l'époux, pour moi, je ne suis que l'ami de l'époux. J'ai introduit l'épouse auprès de l'époux. Vous savez qui est l'épouse ? L'Église. L'Église. Et Jésus dira, Jean était le plus grand des prophètes, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean. Comment je pourrais dire que je suis plus grand que Jean ? Mais non. Non. Mais c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Il dit, je me tiens là, à la porte de la chambre nuptiale, j'entends la voix de l'époux, et cette voix me remplit de joie. Il faut qu'il grandisse et que je diminue. Et c'est ça, l'Église. Il faut que peut-être l'Église diminue pour faire grandir la révélation de Jésus-Christ. Il faut plus penser dans ce sens-là, je ne parle pas, voilà, on ne va pas parler de la puissance de l'Église, non. C'est la puissance de la grâce de Jésus-Christ. Et je vous invite à réfléchir sur l'humilité, je vous invite à vous humilier devant le Seigneur, et on l'a fait avant le repas du Seigneur, on l'a fait en chantant « Ma couronne » qu'on va jeter aux pieds percés, « Ma couronne ». C'est quoi ma couronne ? Pour vous, c'était quoi cette couronne que vous avez jetée aux pieds de Jésus quand on l'a chantée ? Non, c'est pas ma couronne de gloire. Oui, moi, j'ai pensé un moment en chantant ce chant, c'était ma couronne de gloire, même cette couronne qui me donne, je la jetterai. Oui, ça fait référence à l'Apocalypse. Mais ma couronne, c'est aussi moi, mon ego. Et quand je regarde mon ego, je regarde mon je. Et si j'essaie, c'est C.S. Lewis qui faisait un philosophe chrétien qui a fait qui cherchait le jeu de lui. Et il dit, quand je suis arrivé au bout, j'ai vu que je n'étais rien. Ce jeu n'existe pas. Le moi n'existe pas. C'est une idée, c'est un concept. Mais nous n'existons aujourd'hui qu'à travers Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, nous sommes tous morts par nos offenses. Morts. Nous n'existons plus. Nous n'existons qu'à travers la personne de Jésus-Christ. Et ça ne se reçoit qu'avec humilité. Ça ne se reçoit pas intellectuellement. Je vous invite donc à réfléchir sur l'humilité, à vous humilier devant le Seigneur et soyez sûr qu'il vous élèvera dans son amour. Et si ensuite vous vous disiez, je suis trop petit, je suis vraiment insignifiant pour faire quelque chose dans ce monde, c'est que vous n'avez jamais passé la nuit avec un moustique. Et peut-être que vous vous dites, si vous vous dites toujours, j'ai du mal à acquérir l'humilité, il y a tellement d'orgueil dans ma vie, vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. On n'est jamais humble. En tout cas, on ne se sent jamais humble. Parce que quand on se sent humble, c'est qu'on ne l'est plus. Hein ? La conclusion, ce sera ces versets 30 et 31. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. Et Richard nous a rappelé, par l'Esprit Saint qui met en nous la vie, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous révéler ces choses à nos cœurs, Seigneur. Nous voulons essayer de les transmettre avec notre cœur dans cette assemblée et notre intelligence. Seigneur, renouvelle notre intelligence. Nous voulons, au fond de nous, tellement te servir et il y a tellement d'obstacles dans nos existences, tellement de choses que nous poursuivons qui n'ont rien à voir avec la vie abondante à laquelle tu nous appelles. Seigneur, apprends-nous à nous tenir humbles devant toi, à nous tenir humbles dans cette vie, à savoir considérer les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Seigneur, nous voulons tellement ton amour. Par le nom de Jésus-Christ. Amen.